Et nous voilà maintenant tous réunis pour la troisième table ronde pour la journée de la radio, la troisième table ronde autour du thème de conserve de paysage. Bonjour à toi, chers auditeurs, chères auditrices qui nous écoutent en direct pour cette huitième édition de la JDR. Nous avons le plaisir maintenant d'accueillir Renaud Dalmar, réalisateur et concepteur radio. Bonjour.
Bonjour.
Et Rodolphe Alexis, designer sonore et artiste du son. Bonjour.
Bonjour.
Conserve de paysage, c'est bien le thème de notre table ronde. Et il sera question ici du paysage sonore, comme vous l'aurez deviné. Mais comment conserve-t-on un espace grâce au son et pourquoi vouloir sauver des souvenirs de champs verts, de rues bruyantes et de bruits de mer? Quels sont les enjeux associés? Nous allons tenter de répondre à toutes ces questions tout de suite avec nos invités en direct du Théâtre Cantor de l'ENS de Lyon.
Alors, le paysage sonore est un concept qui a été créé dans les années 70 par un compositeur canadien du nom de Schaeffer, qui l'a défini comme suit. Donc, le terme s'applique aussi bien à des environnements réels qu'à des constructions abstraites telles que les compositions musicales ou les montages sur bande. Donc un concept large, capable d'englober une grande diversité de compositions, et donc teinté d'ambiguïté puisqu'il semble laisser penser que les sons ne peuvent pas être dissociés de l'environnement dont ils sont issus, alors qu'ils ne portent pas forcément de façon discernable ce lien à leurs origines. Et cela pose inévitablement la question de la pertinence de la conservation du paysage sonore. Nous allons donc chercher, au cours de cette table ronde qui va passer un peu trop vite, je pense, à cerner les évolutions qui ont marqué l'histoire de la conservation du paysage sonore, afin de mieux comprendre l'importance de ce qui se fait actuellement, et comment nous nous y prendrons. Nous verrons également comment la subjectivité de la réalisation des compositions sonores joue un rôle marquant dans leur conception et leur reconstruction. Donc, pour éclairer ces questions, présentées comme cela semblent très obscures, nous accueillons deux professionnels du monde du son. Donc, tout d'abord, Renaud Dalmar. Bonjour. Rebonjour. Réalisateur et concepteur chez France Culture depuis 1998, notamment pour l'émission La Fabrique de l'Histoire depuis 2007. Émission qui a été récompensée par des prix internationaux à plusieurs reprises, il me semble. Vous êtes également à l'origine du projet Mai 68, Retour au quartier latin, un documentaire historique itinérant et géolocalisé dans les rues de Paris, et innovant de par sa conception complexe, avec un son immersif binaural, et de par sa distribution, donc par le biais d'une application. Vous êtes également délégué de la CFDT à Radio France. Donc, soyez le bienvenu à Transistor.
Merci.
Nous accueillons également donc, Rodolphe Alexis. Bonjour, vous êtes designer sonore et artiste associé au collectif MU, publié par France Culture et Arte Radio, entre autres. Vous êtes diplômé de philosophie de l'Université de Poitiers et titulaire d'un diplôme d'études supérieures appliquées d'anthropologie de l'Institut des hautes études de l'Amérique latine de la Sorbonne. Vous êtes également diplômé de technologie audiofréquence à l'Institut national de l'audiovisuel. Vos travaux sont de l'ordre de la composition acoustique, du field recording, ainsi que de la production radiophonique et de l'installation sonore. Vous êtes par exemple l'initiateur des installations sonores dans la grande serre tropicale du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. D'ailleurs, vous avez beaucoup contribué à ce genre de projet, pour les musées et les festivals, avec par exemple « Dérivée partielle d'une fonction » pour le festival Ososphère. Donc, ça vous va comme portrait?
Oui, vous avez pris la version longue, un peu pompeuse de la biographie.
Bonjour. Certainement.
Il fallait faire les choses bien. Alors, si vous voulez, on va commencer immédiatement notre questionnement, parce qu'il est assez long. Et je vous propose de commencer le sujet sur la conservation du son par son enjeu historique. Parce que conserver un moment, ça semble vouloir le capturer pour le mettre hors du temps. Et donc, capturer un moment, c'est aussi répondre à des enjeux historiques, à un intérêt de mémoire. Et donc, vous travaillez tous les deux à base d'archives sonores et d'enregistrements. Alors, avant que l'on vous demande pourquoi, on écoute tout de suite un extrait de la fameuse expérience Mai 68, retour au quartier latin.
Historique.
Pour moi, ça symbolise 1789.
Oui, parce que non, il y en a qui sont à côté de moi qui parlent de la commune.
Depuis les routiers.
Alors, Renaud Dalmar, cet enregistrement de mai 68 est devenu une archive. Par quel processus est-ce qu'on transforme, on décide de transformer un enregistrement en archive ?
Alors, ça commence très fort. Donc effectivement, il s'agit d'une archive, si je me souviens bien, d'RTL. Donc en l'occurrence, une archive d'actualité. L'actualité va, les journalistes d'actualité vont sur les manifs et enregistrent ou cherchent des gens. Ils passent beaucoup de temps à l'époque de mai 68 dans les manifestations. Il reste des journées entières, donc faut nourrir l'antenne puisqu'il y a des spéciales. Donc il recueille un certain nombre d'interviews. Ça devient une archive à partir de du moment, je pense, où on la réutilise, nous, pour dire, pour témoigner d'un temps passé, en l'occurrence en histoire. C'est là que ça devient une archive, c'est là que ça devient intéressant. Alors il faut, je vais être très terre à terre et je vais revenir à la construction de cette séquence. Le dispositif qu'on a choisi avec Emmanuel Laurentin quand on a fait le scénario, c'est de réutiliser les archives comme si l'auditeur les réentendait dans son transistor à l'époque, c'est-à-dire que là, il l'entend dans l'oreille, puisque c'est un son binaural, il l'entend dans son oreille gauche ou droite, comme s'il portait un transistor sur son épaule, ce qui se faisait à l'époque, puisque le transistor a été un des outils très importants de mai 68 pour l'expression, mais aussi pour les rendez-vous, puisque à un moment donné, on a même arrêté l'antenne d'Europe 1 et d'RTL parce que la préfecture estimait qu'elle jouait un rôle trop important dans les manifestations. Donc le transistor était très important. Et en fait, les manifestants écoutaient des manifestants qui étaient ailleurs, à un autre endroit dans Paris. Et il y avait cette espèce d'ambiance qui montait avec les interviews des journalistes. Alors moi, je dirais, là dans la construction, dans mon rôle de réalisateur, mon rôle n'a été que de choisir finalement quelle partie de cette archive je prends et le dispositif de le réécouter comme un son radio dans l'oreille. Et il y a une chose qui est très intéressante dans l'archive que vous avez choisie, contrairement à d'autres archives, vous auriez pu en prendre d'autres, mais celle-ci, elle est intéressante dans la tonalité et dans le ton de la jeune fille interviewée. Et parce qu'il est très significatif de l'époque. Ce qu'on a fait sur mai 68, donc ce documentaire itinérant, peut-être que je le réexpliquerai plus tard, mais il y a beaucoup de très jeunes auditeurs qui ont écouté, puisque lorsqu'on allait avec des journalistes pour parler de ce documentaire sur place, on voyait, on a vu des lycéens qui écoutaient, qui se baladaient avec pour écouter cette balade, et du coup qui écoutaient ce son. Et moi, je les ai interrogés, j'en ai interrogé 4-5 sur justement cette archive-là, et ils me disaient, mais c'est incroyable comment elle parle, c'est incroyable comme elle rigole, c'est incroyable, voilà. Et donc c'est très significatif. Certains ont dit même, on a l'impression qu'elle imite Brigitte Bardot, on a l'impression qu'elle imite les actrices de l'époque. Et donc c'est, voilà, c'est très significatif parce qu'à travers le son, qui n'est pas le contenu de ce qu'elle dit, mais qui est la forme, la tonalité, on retrouve quelque chose de l'époque. Et c'était l'objet de ce qu'on voulait faire, un documentaire itinérant. On voulait immerger l'auditeur au Quartier Latin pour qu'il puisse se retrouver 50 ans en arrière, dans un autre monde, comme l'a dit Emmanuel au début du documentaire. C'est un autre monde. Et là, ça participe à ce que ce soit un autre monde.
Je peux juste te poser une question. Donc cette voix-là, c'est bien une voix de l'époque.
C'est une voix de l'époque.
Donc tu as à la fois sa manière de parler, sa prosodie, et en même temps tu as le dispositif qui est le média en fait de l'époque, et donc tu as cette certaine tonalité qui est due au fait du média.
Tout à fait, ouais. Et alors, faut dire, rajouter un petit truc sur la secret de fabrication, on entend de l'ambiance, de casse, de... Alors tout n'est pas sur la bande, parce que la difficulté, si on fait de l'histoire, c'est qu'on va reprendre des archives d'événements. Et les archives d'événements, il y a très peu de son seul, de son en dehors du son parlé. Encore aujourd'hui, un technicien qui va sur, avec un journaliste qui va sur un événement d'actualité, les manifestations, les dernières manifestations, il enregistre très peu de son seul. il va enregistrer des interviews et couper 5 secondes après l'interview. Ah, j'exagère parce qu'aujourd'hui, on leur demande quand même de faire un peu plus, mais il y a très peu de son seul, on retrouve très peu de son seul. Donc du coup, là, on entend un peu le son seul, on en faisait plus à l'époque, donc on en a. Et là, il faut que je rende hommage quand même à quelqu'un qui est une des seules personnes qui a enregistré du son en mai 68 et uniquement du son et du son d'ambiance, c'est Claude Ventura. Ce grand réalisateur de télévision et de documentaire, qui est à l'origine de l'émission Cinéma à Cinéma, et qui, lui, se baladait avec un magnétocassette dans les manifestations, et les premiers magnétocassettes, et qui enregistrait du son seul. Et ça, c'est assez unique. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, il y a un peu du son de Claude Ventura derrière cette archive d'RTL. Donc, une petite reconstruction de ma part. Voilà.
D'accord. C'est assez intéressant du coup d'avoir pu entendre cet extrait-là et toute l'histoire que porte justement cette archive, notamment pour faire le parallèle avec l'un des extraits que vous nous avez envoyé, Rodolphe Alexis, qui s'intitule « Archive faux semblant ». Donc on va pouvoir écouter cet extrait tout de suite.
Oui, alors.
Pourquoi archive faux semblant? Est-ce que c'est du fait que ce soit simplement une reconstitution qui fasse qu'on ne peut pas vraiment parler d'archive ou...
Alors, ce passage, il est très très court, il est introductif. Ça, c'est marrant parce qu'il y a des parallèles avec le parcours mai 68. C'est une micro pièce sonore qui fait partie d'un parcours sonore, d'une commande en fait de la ville de Saint-Étienne, du musée d'art et d'industrie de Saint-Étienne, sur trois passages de la ville de Saint-Étienne, le quartier des armuriers, où il y avait un patrimoine vraiment du savoir-faire armurier, puisque c'est la ville vraiment des armes et du cycle, comme on sait. Et puis, il y avait évidemment cette usine Manu France. Et dans les années 80, il y a eu les crises, on sait, de cette usine qui finalement a été complètement délitée, etc. Et il y avait tout un passage de manifestation qu'il fallait qu'on mette en son. Et il y a une historienne après, une conservatrice, qui parle un petit peu des événements de cette période-là. Et on avait très peu de son archive. Parce que quand on allait retrouver évidemment dans les archives, comme tu disais, il y a très peu de son utile, d'ambiance, qui peut nous, après, nous recontextualiser dans le son de l'époque. Donc là, ce que vous entendez, c'est une reconstitution faite à la base. La question qu'il y a derrière, c'est qu'est-ce qu'on se figure de cette époque-là aussi? Qu'est-ce qu'on choisit de cadrer? Qu'est-ce qu'on choisit de figurer? Donc là, l'idée, c'était évidemment de se baser sur les slogans syndicalistes de l'époque. Donc on s'est basé sur des livres d'archives, notamment un très beau recueil de slogans de la CGT, qu'on a recontextualisé, qu'on a refait avec un porte-voix, etc., avec une foule derrière. Et puis derrière, on s'est aussi posé la question quelles étaient les voitures les plus représentées, les moteurs, la sirène de police, etc., pour essayer de donner quelque chose qui ait une certaine véracité, une certaine fidélité, pour donner une archive qui en fait n'en est pas une, voilà, qui est un éclairage sur ces potentiels de sonorité, de cette mémoire qu'on pourrait avoir, qui fait consensus et qui fait que du coup on pourrait se l'attribuer comme quelque chose de valide, entre guillemets, en tant qu'illustration de cette mémoire collective. Voilà.
D'accord. C'est intéressant que vous parliez de reconstitution avec par exemple le bruit des voitures, parce que c'est aussi ce que vous avez fait dans mai 68, je crois. On a un extrait justement qu'on peut écouter tout de suite aussi, où il y a cette reconstitution par le bruit des voitures.
Parce qu'il nous fallait il faut une base pour pas qu'il y ait de trous, et puis des sons qu'on choisit de faire arriver à différents endroits, qui peuvent être des sons mono de l'époque, des explosions où par exemple on pourrait faire un concours parce que il y a un certain nombre de véhicules dans la balade, donc on a repris des sons de l'époque, de véhicules de l'époque, une 404 par exemple, ou deux chevaux parce que ça s'entend facilement, mais d'autres modèles qui sont plus difficiles, si certains les reconnaissent, des scooters qui sont pas forcément des Vespa, d'autres. Donc il y a beaucoup de sons comme ça qui sont des sons qui sont des sons additionnels en mono et qu'on fait arriver.
Voilà, donc on voit bien aussi le travail de reconstitution. Donc ça, c'était un extrait au festival Longueur d'onde.
Ouais. Oui, j'expliquais, puisqu'il y avait eu une question dans la salle qui me demandait, mais justement, est-ce que ce sont des archives réelles? Comment vous avez travaillé? Alors d'abord, ça ne peut pas être d'un point de vue très très matériel, ça ne peut pas être des archives réelles, puisque de fait, l'objet donc de ce documentaire, c'était aussi de faire du son binaural, donc le binaural n'existait pas à l'époque, donc il faut reconstruire le binaural déjà, c'est-à-dire qu'il faut... Je ne vais pas détailler ce qu'est le son binaural, ceux qui s'intéressent iront voir, mais c'est un son immersif, c'est-à-dire en 3D. Donc il faut un fond, comme un fond de toile pour un décorateur, il faut un fond qui soit un fond avec du volume. Et donc ça, par exemple, j'ai pris des ambiances de manifestations enregistrées ces dernières années pour avoir ce fond. Donc c'est une complète reconstitution de... Mais justement, l'objet est là. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on on tente de reconstituer bruit à bruit, enfin, et son après son, quelque chose qu'on imagine de l'époque? Ou est-ce qu'on essaye l'idée de, quand on crée un paysage sonore, c'est de se dire, il y a toujours un angle, comme un photographe, c'est pourquoi on choisit ça. Donc c'est de choisir un angle, de se dire, et où on emmène l'auditeur? Et qu'est-ce qu'on choisit de faire? Est-ce qu'on choisit de faire quelque chose, d'être très sobre, juste un oiseau qui passe? Ou est-ce qu'on on décide d'en faire des caisses? Est-ce qu'on décide de mettre de la musique? Parce que la musique participe aussi à l'éclairage d'un décor. Donc, comment on fait? Effectivement, ça passe par un point de vue subjectif du réalisateur qui essaye de retrouver comment, où il peut emmener l'auditeur. Là, donc l'idée c'était d'immerger, mais pas de faire de la reconstitution, parce que ça, j'avais interdiction absolue de faire de la reconstitution de la part de mon producteur qui déteste ça. Donc il voulait pas se retrouver dans ces formes de documentaires de reconstitution. Mais on était quand même sur place, on devait progressivement emmener l'auditeur au cœur de mai 68, là, pour le coup, il y a une grosse séquence, j'invite les auditeurs à écouter, c'est la séquence 7 de ce documentaire, où j'ai complètement reconstitué l'ambiance de la place de la... Enfin, recomposé, il n'y aura pas de montage, tant pis, recomposé la Sorbonne, mais en mélangeant ce qui se passait à l'intérieur de la Sorbonne et à l'extérieur, donc avec un jeu, une création, avec des comédiens qui n'étaient qui faisait des petites phrases simplement pour qu'on soit sur des phrases de l'époque, qu'ils soient sur des bruits de voiture, comme vous l'avez dit. Donc personne n'a encore retrouvé finalement la marque du scooter et la marque des voitures qui sont dans le documentaire. Mais c'est le jeu, c'est nos petits trucs pour emmener l'auditeur dans ce qu'était le paysage de l'époque. Et en documentaire d'histoire, on est obligé de se poser la question en permanence, qu'est-ce qu'on fait? Quand on fait un documentaire d'histoire, est-ce qu'on fait une ambiance? Est-ce qu'on met simplement une musique? Qu'est-ce que veut dire la musique? Qu'est-ce que veut dire de mettre un son, quel qu'il soit? Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, c'est toujours la question qu'il faut se poser.
Et après, il y a aussi la question du média de destination, parce que finalement, ce qui présuppose la place de l'auditeur, où est-ce qu'il est par rapport à ce qu'on entend, où sont les premiers plans, etc. Est-ce qu'il y a des jaillissements sonores? Est-ce qu'il y a des choses qui viennent perturber aussi le récit, des choses comme ça? Je me rappelle de reconstitution historique, notamment une démarche vraiment radiographique très fouillée, comme les travaux de Mylène Pardoen, en fait, sur la reconstitution sonore du quartier de la place du Châtelet au XVIIIe siècle. Elle est vraiment allée très très loin dans ses recherches, à savoir même en fait la taille de certaines rues pour savoir combien de carrosses pouvaient passer de manière simultanée, puisqu'en fait c'était le nombre de carrosses qui déterminait en fait la largeur de la rue. Après, avec certaines archives de certaines maisons, on pouvait savoir ce qu'il y avait dans les maisons et donc l'élévation de certaines maisons. Donc on pouvait en déduire un petit peu comment les rues étaient encaissées et ainsi de suite. On pouvait après déterminer plus ou moins la résonance de l'acoustique de cette rue. Elle allait jusque-là, et dans ses travaux en fait, d'accumulation de couches, de couches, de couches, ça se traduit d'une certaine manière très très dense dans le sonore. Donc il y a beaucoup beaucoup d'informations et des couches très très fines, comme ça on pourrait aller très loin. Mais finalement, c'est comme si on était extérieur à l'objet. C'est-à-dire que si c'est dans une... Elle est en train de développer un jeu en 3D pour ça, donc là c'est plus immersif évidemment, mais quand on a une écoute type radiophonique de cette reconstitution, c'est comme si l'auditeur était extérieur à cette scène-là, comme si les premiers plans étaient déjà un petit peu loin et que finalement c'est un objet, c'est l'objet en fait sonore de sa recherche. Mais il y a un point de vue subjectif quelque part de l'écoute naturelle qui échappe à ça. Quand on est dans une écoute naturelle d'un environnement, il y a des choses qu'on traverse, il y a des choses qui nous jaillissent, il y a des choses qui nous choquent l'oreille. Et ce point de vue subjectif de reconstruction d'un réel, entre guillemets, c'est vraiment très, 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 très prégnant pour un preneur de son, de la même manière qu'un photographe, comme tu l'as dit. Ouais. Il y a vraiment ce rapport de prendre une fraction du réel, c'est un cadre. Il n'y a pas de paysage sonore qui existe en tant que tel. C'est vraiment une visée, une singularité, un point de vue qu'on veut donner à entendre d'une partie du réel.
Voilà. Si je peux réagir, c'est très intéressant ce que dit, parce qu'on a vraiment une démarche très différente, par exemple, de celle de Mireille Perdoen, que je connais, qui a vraiment une démarche de chercheuse et qui essaye, par exemple, de retrouver le son du sabot d'un cheval sur le pavé de l'époque. Et donc, elle a fait quelque chose, elle a essayé de construire quelque chose avec ça. Moi, j'ai fait quelque chose qui était sur le XVIIe siècle, que Rodolphe connaît bien, puisque sur un prototype justement de documentaire itinérant sur les berges de la Seine. Et l'idée était, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que les berges de la Seine, qu'est-ce qu'on fait pour immerger l'auditeur ? Parce qu'il y a cette idée, c'est vrai que c'est pas à plat. Dans un documentaire itinérant tel qu'on l'imagine aujourd'hui, l'auditeur est au milieu du son. L'auditeur est au milieu de l'histoire. L'auditeur, il y a des chariots qui passent à gauche, à droite, derrière, il se passe des choses partout, au-dessus de sa tête, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Et si on part sur la démarche de Mireille Perdoen, on essaye de retrouver le cheval du XVIIIe siècle. Et de, voilà. Et moi, j'ai essayé de dire et de travailler avec une historienne comme Arlette Farge, par exemple, pour lui dire, est-ce que tu crois, est-ce que là, on y est, quoi ? Est-ce qu'on est sur les berges de la Seine ? Est-ce que tel que toi, tu as pu imaginer à travers des archives, on peut essayer d'emmener l'auditeur au XVIIIe siècle ? Donc, sans exagérer, mais... Alors, je peux vous donner une recette, comme ça, un petit secret de recette. Les berges de la Seine et un passage où c'est très dense, où Arlette Farge parle justement de la densité de ces berges de la Seine. Et j'ai pris une ambiance de marché en Afghanistan. Et c'est ce qui nous permet de nous vraiment retrouver sur les berges de la Seine au XVIIIe siècle. Voilà.
Oui, effectivement, c'est très surprenant de pouvoir utiliser des sons qui... Ils viennent d'un endroit qui est situé à 20 000 km pour reconstituer une époque il y a 400 ans pour nous, ici. Du coup, au niveau des outils qui sont utilisés, est-ce qu'on pourrait imaginer que l'outil joue un vrai rôle, par exemple par le biais de son évolution à lui aussi, dans la perception qu'on a de ces paysages sonores, notamment passés ? On a tous eu une idée, par exemple, des sons radio ou télévisuels qui étaient très différents pendant les années 70-80. Est-ce qu'on peut jouer sur l'outil qu'on choisit du coup pour reconstruire
Alors pour rebondir sur ce qu'on disait par rapport à Mylène Perdoen, il y a plusieurs choses. Il y a déjà l'objet qu'on travaille et dans quel but en fait on a, quelle est notre démarche. Donc je pense que Mylène, par exemple, pour en avoir discuté avec elle, elle gagnerait tout à travailler avec des sound designers. Elle est vraiment demandeuse de ça pour justement faire vivre encore plus cette immersion, cette sensation d'immersion, et pouvoir prendre des éléments solos, et faire jouer des solos, en fait, des solis un petit peu partout autour de soi pour qu'on soit vraiment, vraiment immergé dans ce paysage sonore qui soit le redonner vie, finalement. Et pas l'avoir comme ça un petit peu plaqué. Et c'est un petit peu les différents supports de destination qui vont déterminer aussi qu'est-ce qu'on peint comme paysage. Et en même temps, quand on revient à la question de l'archive et du paysage sonore, ça pose aussi la question du statut du document par rapport à la capacité de la machine à enregistrer et à documenter le réel, puisque si on remonte aux premiers enregistrements ethnomusicologiques, le temps d'enregistrement était extrêmement réduit. On n'avait qu'un fragment de documentation, avec en plus un rapport signal sur bruit qui n'était pas optimal, peut-être une cérémonie religieuse qui durait plusieurs heures. Donc finalement, quel était le statut de ce petit fragment qu'on rapportait à la maison et qu'on essayait d'étudier ? Quelle place on lui donnait par rapport à voilà, une historicité, une histoire, un rapport d'études sociales, ça pose vraiment la question de l'objectivité d'un paysage sonore qui, pour moi, ne tient pas ni dans la question de la fidélité, c'est-à-dire la fidélité de la reconstitution sonore des timbres, etc. Même là-dedans, on n'arrivera jamais à prétendre à une véritable objectivité. Il n'y en a pas, parce que ça passe de toute façon par l'expérience sensible du preneur de son, qui est dans un espace à un moment donné et qui vraiment, quelque part, ressent ou subit cet environnement avec tous ses sens, la circularité de ses sens, la marche, etc., le toucher, l'odorat, le vent sur ses cheveux, etc., au-delà même de l'oreille. Et puis, on n'a pas que l'oreille pour entendre, on a aussi le corps qui ressent les vibrations, etc. Et puis après, donc ça, c'est le premier filtre subjectif, j'irais sensible, du primat de la perception dans l'espace. Et après, il y a évidemment le filtre des outils. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme outil? Et puis, comment on va cadrer par rapport à ces outils? Donc déjà, tout ça fait que la première des objectifs qu'elle on peut prétendre de cette fidélité n'existe pas. Et alors après, le paradigme technologique, il est évidemment énorme, quoi.
Alors, il faut comprendre qu'aujourd'hui, avec les nouveaux outils, par exemple le binaural, si on peut se focaliser un petit peu là-dessus, on a très peu de sons en binaural. En tout cas, nous, à Radio France, ça fait quelques années qu'on fait du binaural, mais du coup, on n'a pas collecté, on n'a pas engrangé beaucoup de sons. Et en gros, on n'a jamais celui qu'on souhaite. Donc, c'est un peu toujours comme ça avec les banques de sons. Donc, c'est pour ça que ça s'est jamais vraiment beaucoup développé. Donc, parce que le son binaural, c'est pas juste de la 3D. C'est une sphère de son, donc il faut que ça soit rempli partout. Ça ne peut pas, c'est pas juste quelques points, ou même si c'était des milliers de points, ça peut pas suffire. C'est une sphère de son, donc il faut un fond sonore. Si on veut faire du binaural, il faut un fond binaural, parce que sinon ça ressemble à des petites choses qui arrivent à droite à gauche, et c'est pas satisfaisant. On a besoin d'un fond binaural avec des petites choses justement qui peuvent être d'époque et sur lesquelles on puisse coudre ou recoudre des choses, des solos, comme le disait Rodolphe, des choses intéressantes qui sont très pertinentes. Là, je suis toujours dans le processus d'histoire, mais qui sont très pertinentes. Du coup, oui, on enregistre. Alors, on isole des sons, il y a des sons isolés d'il y a très très longtemps, et de voitures, de choses qui sont très signifiantes, comme disait Yann Parentoen, le gros constructeur des paysages sonores.
Après, la question, évidemment, c'est de savoir si une esthétique est déterminée par un certain outil, et savoir... qu'est-ce qu'on recherche en fait? Est-ce que c'est l'expérience sensible? Est-ce que c'est quelque chose qui est du domaine de justement cette haute fidélité de reconstitution? Ou si c'est vraiment quelque chose de plus artistique? Est-ce qu'on essaie de reproduire un écosystème avec justement ces données spatiales, etc., avec des multicouches, etc.? Ou est-ce qu'on est aussi dans l'esthétique d'un média? La radio, c'est aussi une esthétique quelque part. Donc il faut savoir ce qu'on vraiment veut faire et quel est le paysage qu'on donne, encore une fois, à travailler ou à entendre.
Ouais, c'est très intéressant, parce que là, j'étais dans une explication un peu froide. On a l'impression peut-être que finalement, on essaye d'être très académique et reconstruire des choses en faisant croire qu'on est objectif. Mais effectivement, on a toujours une démarche, un point de vue, une subjectivité très importante. Et parfois, on peut se laisser aller, par exemple, avec une musique. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, une musique dans un paysage? Se laisser emmener par une musique, un son qu'on ne va pas forcément entendre très clairement, mais finalement qui nous ramène à quelque chose, ou qui nous permet d'emmener l'auditeur quelque part.
Et alors là, je te lance juste sur un dernier point, mais c'est là où les séances des cinémas pour l'art, ils sont super à Radio France, puisque voilà, c'est aussi une redécouverte des pièces radiophoniques en spatialisation, en WFS. On fait du mixage objet, donc on va replacer des sources pour leur donner corps dans un espace à 360 degrés, même plus, parce que c'est plus ou moins sphérique, parce qu'on pourrait imaginer avoir des haut-parleurs au plafond, etc. Donc là, on a vraiment une oralité, un nouveau paysage qui n'est pas le paysage de la pièce radiophonique, qui n'est pas le paysage de celui de l'in-situ dans lequel on a fait la prise de son. Et je pense que c'est encore une autre découverte et un autre travail pour les techniciens et les mixeurs de Radio France que de retravailler cet espace-là. Et l'intéressant, c'est aussi le va-et-vient qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des intuitions, je pense, de placement de certaines sources par rapport à des sensations qui ne sont pas à l'espace réel, mais en fait des translations qu'ils font par rapport à du vécu leur sensible d'autres espaces. Et c'est là où on arrive aussi dans le paysage aussi mental et quelque chose qui est du domaine du sensible et de l'indicible, mais qui fait commun, qui fait sens commun, ce qui fait commun dans une... voilà, qui fait sens.
Donc, vous nous parlez de subjectivité dans la composition de l'enregistrement, dans le choix de comment on fait l'enregistrement. Mais on peut se dire que la subjectivité, elle est aussi, et avant tout d'ailleurs, dans le lieu qu'on choisit d'enregistrer, dans le, la manière dont, dont on le cadre. Donc est-ce qu'il y a certains lieux qui se prêtent mieux que d'autres à la prise de son, et comment on choisit justement selon sa sensibilité le lieu que l'on choisit de, d'enregistrer, comment on le cadre? Donc Rodolphe Alexis, vous nous avez proposé un extrait justement pour parler de cadrage, celui en Finlande, sur l'île de Suomenlinna, si je le prononce bien.
Suomenlinna, oui, c'est en face d'Helsinki.
D'accord. Enfin, donc on peut l'écouter si vous voulez, et on en débattra. Donc, Rodolphe Alexis, comment on choisit le paysage qu'on cadre et comment on le cadre?
J'aurais tendance à dire je ne sais pas. Parce que, encore une fois, c'est vraiment. C'est aussi la contrainte du terrain qui fait qu'on se place ici et pas ailleurs. Et puis finalement, avec les outils qu'on a choisis aussi pour aller sur le terrain, il y a vraiment ce rapport sensible de prise avec le réel. Et en même temps, j'aime beaucoup cet exemple-là pour l'avoir passé choisi aujourd'hui. Je suis très content que vous l'ayez choisi parce que c'est un peu l'exemple type de quelque part qui est très parlant pour un paysage sonore, c'est-à-dire que tout est là en fait un peu. Si on se réfère un peu à la définition du paysage sonore de Raymond Murray Schaeffer que vous avez cité tout à l'heure, voilà, il y a trois grands types de sons, on va dire, pour aller vite. Il y a ce qu'il appellerait le fond, justement, ce que tu disais tout à l'heure avec le son des voitures, etc., et d'une avenue ou d'une route à côté. Donc là, en l'occurrence, ça va être la mer qui est pas très loin, un petit peu le vent, etc. Donc ça, c'est ce qu'il appelle les keynote sounds. En fait, c'est comme la fondamentale dans un morceau de musique, ce qui va définir en fait la tonalité du morceau quelque part. Donc tous les autres sons vont être organisés par rapport à ce son-là. Ce qui est intéressant, c'est quand il parle de ce rapport, parce que dans le rapport au paysage, il y a un truc qui est pas très 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 clair, dont on n'a pas beaucoup parlé depuis le début, c'est ce rapport entre le paysage qui va être quelque part la photo, la phonographie qu'on va rétrécir du réel, et puis il y a ce rapport d'écoute et de rapport avec l'environnement qui est vraiment ce rapport d'écologie, qui sont deux choses complètement différentes. Alors lui, Raymond Murray Schaeffer, essaye de se donner des outils dans ces définitions-là pour rentrer dans un certain dialogue avec justement ce paysage sonore vivant autour de nous et d'avoir une action sur lui, savoir qu'est-ce qu'on pourrait conserver, qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement diminuer comme son qui nous pollue, etc. Donc ce rapport d'écologie, voilà, il essaye de... Après, on verra que ça ne tient pas forcément... Enfin, c'est des outils, c'est bien pour démarrer, pour analyser un paysage, mais voilà, c'est... Bon. Bref, je continue. Mais tout ça pour dire que voilà, il y a ces keynote sounds, donc qui sont un peu la base. Après, on va avoir des sons d'événements. Donc là, on a évidemment ce qui marque tout à fait la frontière de la profondeur de l'espace, ça va être l'avion qui passe au début. Donc j'aime beaucoup cet extrait à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que on a déjà notre lointain. À partir de là, on va pouvoir sensiblement déterminer tous les différents plans et se donner quelque part une appréciation sensible de l'espace, de la profondeur et de la largeur. On a l'avion, après on a les Bernsteinzonen qui sont au premier plan, on a des moineaux qui sont un petit peu comme ça sur un côté un peu plus loin, et puis un petit peu ça se déroule, on a un petit bateau qui passe, avec on entend la radio du bateau, etc. Donc on a vraiment à la fois aussi une espèce de on a l'exemple parfait de la typologie des différents sons, c'est-à-dire les sons que Bernie Krause appelle les sons de la géophonie, donc les sons de l'activité de la Terre, donc le vent, la mer, etc. On va avoir le son des animaux, des êtres vivants, et puis on va voir les sons anthropiques, à la fois les sons anthropiques, les sons humains, mais je dirais biologiques, c'est-à-dire les sons de la voix parlée, de la personne qui est dans son bateau, et puis l'avion, et puis le bateau, donc les machines. Donc ça, c'est ce que Bernie Krause appelle, Raymond Murray Schaeffer appelle donc les signal sounds, donc les sons d'événements qui vont jaillir comme ça dans ce cadre avec ce tapis sonore qui était les keynote sounds. Et puis on va avoir derrière les sons qui marquent la frontière d'un territoire, qui serait comme des landmarks, mais leur équivalent au niveau du son. Et ces soundmarks, comme ils les appellent, ils ont valeur aussi de rapport culturel très fort. Donc lui, il prend l'exemple évidemment de la baie de Vancouver avec la corne de brume qui sonne, etc. Donc quand elle sonne, au moment où elle sonne, évidemment, c'est un signal sound parce que ça fait événement, mais en même temps, c'est un marqueur sonore de ce territoire-là. Donc ces trois données-là, c'est ce qui va faire qu'on est à Vancouver, dans la baie de Vancouver, avec la mer, qu'on n'est pas à New York avec les sirènes de la police. Et donc ça, on voit bien aussi le rapport de communauté, donc le rapport socio-culturel qui est important et qui est sous-jacent à la question de paysage. C'est-à-dire que, bah, voilà, un paysage à Vancouver, c'est pas le même qu'un paysage au Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et nous-mêmes, quand on écoute le paysage de Vancouver, est-ce que les Papous l'écouteraient de la même façon ? Et moi, quand je vais enregistrer les paysages de Vancouver, est-ce que je vais l'enregistrer de la même façon qu'un Papou l'enregistrerait ? Et après, au-delà de ce même ça, il y a aussi le rapport évidemment sociétal et économique qui prévaut. C'est-à-dire, si moi j'ai des super outils, entre guillemets, les plus fidèles possibles, et puis à côté, si je prends d'autres micros de moindre qualité, je n'ai pas donné la même chose. C'est aussi un rapport esthétique, de choix de ces outils, etc. Donc tout ça, ça fait partie, ça participe du cadrage. Du cadrage et de qu'est-ce qu'on met en exergue ce paysage, comment on le construit, comment on prend cette partie du réel, qu'on la réduit et on choisit de faire cette petite fenêtre, de découper une partie du réel. Et c'est la différence aussi qu'on peut avoir entre le peintre qui va lui construire une image concrète à partir du réel et qui va peindre toutes les lignes, et nous on va soustraire une partie. Part. Alors on a une action sur le terrain, mais quelque part c'est là où on se rapproche du photographe, et en même temps on est un peu différent du photographe, parce que le photographe, lui, il va traiter des aplats, et il a une profondeur, mais qui reste quand même d'une main de la surface, alors que nous on va avec la ligne temporelle aussi, on va travailler un enveloppement. Voilà.
Merci. Alors moi la démarche est très différente, puisque je suis un réalisateur et à la manière d'une équipe de cinéma, je dis ce que je souhaite, et qu'il y a un technicien du son qui fait la prise du son, qui fait le cadrage. Bien sûr, je sais faire du son, mais mon travail essentiel est dans la réutilisation de ce son et dans la construction de quelque chose, d'un objet, avec ce son qui a été enregistré par un autre. On est dans une démarche très, très collective, Radio France et à France Culture, quand on construit un documentaire. Et donc, moi, je me base, je travaille avec le savoir-faire de ce technicien du son qui, lui, ne va être que dans la qualité, enfin la nuance sonore, les couleurs, et qui va rechercher quelque chose. Et moi, je vais récupérer ce travail-là pour en faire autre chose. Je ne recompose pas le son, mais je construis quelque chose sur la base de ce qu'il a fabriqué. Alors je peux faire le choix de mettre le son brut, direct, comme ça, sans rien mettre autour, parce qu'à ce moment-là, ça veut dire quelque chose. Mais je suis dans la réutilisation de quelque chose. Alors après, je vais lui dire, moi je voudrais bien avoir quelque chose, où est-ce que tu crois qu'on peut se mettre pour avoir quelque chose qui ressemble à ci, à ça, à l'ambiance qu'on avait quand on a fait l'enregistrement, et qu'il y a eu... Voilà. Et lui, il va chercher. Et d'ailleurs, c'est pas forcément à l'endroit où on a fait l'enregistrement qu'on retrouve la bonne ambiance. Il faut le dire. C'est très intéressant, ça, du point de vue de la radio et du son. C'est-à-dire que c'est pas forcément exactement à l'endroit où se sont passées les choses qu'on trouve le meilleur son pour raconter ce qui s'est passé. Ça, c'est quelque chose de très intéressant. Il va dire, attends, si je me mets derrière le mur, ça va être beaucoup mieux. Et là, on a une résonance, on a un truc, on a un petit son, la petite vague, là. On a fait l'interview là, mais là, la petite vague qui est là, elle est beaucoup plus intéressante. J'étais à Saint-Malo il y a deux jours, je me souviens qu'on s'est isolé un peu du vent, et puis finalement, on a refait une ambiance de vent juste de l'autre côté de la haie pour avoir... Parce qu'on ne peut pas le faire en même temps qu'on interviewe quelqu'un. Donc on a refait cette ambiance. Et en dessous, il y aura l'ambiance qu'on a refaite après. Voilà.
Donc c'est un peu comme si le paysage que vous enregistrez, que vous réalisez, c'est celui qui est d'abord imaginé plutôt que le paysage qui est juste...
Exactement, c'est toute la puissance de l'uniquement sonore. À contrario d'image, même si moi je suis aussi photographe, mais effectivement on peut laisser la place à l'imaginaire, et on peut un peu orienter l'imaginaire, mais c'est là la grande puissance du son unique.
Mais justement, est-ce que une fois sur le terrain, cet imaginaire, il n'est pas modelé par des contraintes très physiques, très
Alors, il y a des contraintes, mais il y a des découvertes. Ce que tu disais sur derrière le mur et tout ça, en fait, tout vient de l'écoute. C'est juste comment notre écoute va pouvoir se développer, s'ouvrir comme une belle fleur, comme ça, dans l'espace dans lequel on est. Et là, on va évidemment passer en revue tous les types d'écoutes qui ont été décrits par la phénoménologie des quatre écoutes de Schaeffer, etc. On a vraiment d'une écoute des sources jusqu'à déterminer un son et écouter la structure d'un son et savoir qu'est-ce qu'on va en faire de ce son finalement. Donc à partir du moment où on choisit de se mettre derrière le mur, c'est parce qu'on a d'abord écouté comment ça sonnait autour, et puis petit à petit on a aiguisé jusqu'à faire corps entre notre sensible et puis notre visée. Et puis là on va avoir ce rapport musical, écoute musicienne, aurait dit Schaeffer, de prendre le son derrière le mur par au signal qui se réverbère, le champ diffus, etc., qui se trouve ici. Quoi.
D'accord.
Moi j'avais juste envie de dire... De toute façon, il n'y a création qu'à partir du moment où il y a contrainte. Et c'est ça qui nous pousse à créer et à rechercher quelque chose. Comment on peut arriver, si on enregistrait du son et puis qu'on le balance comme ça, il n'y a plus création. Et donc voilà.
Oui, donc justement, dans ces processus de fabrication du paysage, vous faites souvent appel à ce que vous disiez, par exemple, à des professionnels, donc des historiens. Par exemple, vous parliez aussi d'acteurs, notamment dans le... Enfin, de comédiens dans le projet de mai 68. Par exemple, dans un des numéros de la Fabrique de l'Histoire, qui est celui de Beyrouth, Oublier les ruines, on y entend l'interview, par exemple, d'un architecte et urbaniste, donc Habib Debs, si j'écorche pas son nom, et aussi de Cecilia Pieri, sur la description des lieux. Et derrière, donc, on entend tous les sons de la ville, des voitures, des travaux qui ont lieu, etc. Donc on a sélectionner cette piste, donc l'extrait numéro 6 qu'on va écouter tout de suite.
Cécilia Berry. Bonjour Cécilia Berry.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes donc responsable de l'Observatoire urbain à l'Institut français du Proche-Orient. Vous êtes spécialiste d'autres villes que de Beyrouth, puisque vous êtes spécialiste de la ville de Bagdad, en particulier en Irak. Mais vous vivez ici depuis longtemps et nous sommes dans un endroit qu'il nous faut peut-être décrire, Cécilia Berry. Nous sommes sous deux arbres, deux ficus. À côté de nous, une statue de bronze représente... visiblement Samir Kassir, puisque nous sommes place Samir Kassir, grand journaliste, grand intellectuel, grand historien de Beyrouth aussi, il faut bien le dire, mort tragiquement dans un attentat à la voiture piégée. Donc, et dans cette petite place, toute petite, nous avons autour de nous peut-être ce qui pourrait déjà nous rassembler autour de la question de cette reconstruction de la ville de Beyrouth, à savoir des pastiches d'un art béroutin supposé, des immeubles très neufs que l'on pourrait trouver à La Défense ou dans un quartier d'affaires à Londres, et puis derrière nous un immeuble neuf aussi, mais qui tente de reprendre peut-être certains des motifs d'une architecture donc de pierre ici à Beyrouth. Qu'est-ce que c'est cet endroit et que peut-on en dire quand on le voit ici en tant qu'observatoire de l'urbain, justement?
Cet endroit est assez complexe parce qu'en fait, il se situe à la fois au cœur du centre-ville et pratiquement à la jonction entre donc la ville ancienne, la partie la plus ancienne de la ville et le début des quartiers du péricentre. Et en fait, c'est une sorte d'amalgame ou de patchwork, comme vous l'avez dit, entre différents styles, différentes époques et je pense aussi différents esprits.
Donc on voit qu'il y a quand même une nécessité, au-delà de juste enregistrer le lieu, les sons du lieu, de le décrire. On entend une description des bâtiments. Qu'est-ce que ça apporte de plus? Pourquoi on a besoin, par exemple, d'un avis d'un professionnel, d'un historien, d'une urbaniste pour comprendre le lieu autour de nous, pour saisir un paysage au-delà de l'enregistrement?
Vous voulez dire au-delà, on a besoin de leurs mots finalement pour construire
d'écrire
le paysage.
Victor,
moi, je pense que c'est une des forces de la radio du son, c'est aussi la description et la qualité de certaines descriptions ou la capacité de certaines personnes à décrire sans être hyper précis, mais de la même manière qu'un écrivain, nous emmener dans ce paysage. Donc ça c'est aussi une des grandes compétences d'un certain nombre de producteurs qui, pour le coup, moi j'ai eu à faire travailler un certain nombre de... Et j'insiste beaucoup, par exemple, quand je travaille avec des jeunes producteurs, pour que... Donc le producteur, pour expliquer à tout le monde, c'est la personne qui est au micro à Radio France, c'est la personne qui fait les documentaires, qui est l'auteur de ce qu'il enregistre, enfin de ce qu'il... des interviews et du contenu. Je les encourage à faire des descriptions, à arriver quelque part, à commencer par faire une description avant d'interviewer quelqu'un, parce que de fait, ça met la personne qu'on interviewe aussi dans une autre position. dans la position de « je vous installe dans un décor ». Maintenant, d'ailleurs, c'est intéressant, sur mai 68, on a fait une expérience avec Emmanuel. Certains historiens, on a essayé de les interroger, des gens très, très pointus. On a essayé de les installer parce qu'on avait un problème de son, par exemple, sur les berges de la Seine. C'est très compliqué d'enregistrer, de se retrouver au XVIIe siècle sur les berges de la Seine aujourd'hui avec toutes les sirènes et tout. Et donc, certains sont en chambre sourde dans un studio. Eh bien, ça marche pas terrible. Même si ce sont des grands historiens, ils ont du mal à parler du lieu sans y être. Et donc, c'est pareil, quand quelqu'un fait une description au début d'une interview, ça installe l'interviewé dans d'autres conditions. Donc ça... Alors, pour ce qui est de Beyrouth, là, pour le coup, c'est intéressant de revenir à la réalité de la fabrication, parce que c'est pas vraiment un documentaire. C'est ce qu'on appelle, nous, des balades sonores, et il y a très peu de travail de recomposition derrière. On est à Beyrouth, il nous reste 4 heures pour enregistrer quelque chose avant de reprendre l'avion. Donc, avec Emmanuel, on décide d'aller faire... Enfin, on a prévu avant de prendre ces 4 heures pour faire une balade sonore avec deux urbanismes. Et donc, il faut que... Et là, c'est toute la qualité du technicien, justement, du son, qui va réussir à prendre des voix et à prendre l'ambiance sans que l'une passe... qui n'ait plus d'importance que l'autre. Donc, on est dans du brut, là. Pour le coup, moi, je réutilise du brut, à part... quelques petits trucs de montage que tout le monde n'entend pas, mais parce qu'on a quand même tourné du son seul, et donc il y a des mobilettes qui passent sur des raccords, etc. Donc, mais pour le coup, c'est l'ambiance brute qu'on a, et on choisit d'y aller. C'est dans le choix, c'est au départ. C'est-à-dire, on dit, bon, bah, on va aller là où il y a du bruit, là où... Alors, parfois, on dit, bon, on regarde le lieu, puis on se déplace un peu parce que c'est trop compliqué d'y être. Mais on choisit d'être dans le lieu. Donc ça, c'est le choix de départ pour d'avoir quelque chose d'assez brut et de ne pas recomposer. Ce n'est pas un documentaire. On suit, on se déplace, etc. Donc c'est encore une autre démarche. Et quand je rentre, de toute façon, il me reste 2 jours avant la diffusion. Donc avec toutes les contraintes. Donc je n'ai pas le temps. On ne peut pas enlever le fond sonore, hein. On ne peut pas enlever ce qu'il y a au fond. Même si aujourd'hui, il y a des outils qui permettent de réharmoniser, d'enlever certaines fréquences, mais on ne peut pas s'amuser à ça sur une balade de 52 minutes. Donc, on fait avec et on construit avec. Et on a prévu de construire avec. On l'a fait à dessein.
Quelque part, c'est une démarche qui se rapproche plus du reportage.
Ouais.
Et pour les gens qui font de la prise de son, du field recording, serait quelque chose qui se rapprocherait plus de la phonographie. Pour le coup. On essaie de prendre la séquence qui représente le mieux ce qu'on veut, et là où il n'y a pas de scories, il n'y a pas d'événements perturbateurs.
Là, on fait avec la contrainte en plus du contenu, hein, parce que le choix, il est aussi sur ce qui est dit par l'interview, et pas forcément d'ambiance qui est derrière.
Ouais, du coup, j'aurais voulu justement rebondir là-dessus. Vous faites pas mal de field recording, Rodolphe Alexis. Notamment un extrait d'ailleurs qu'on va pouvoir écouter, que vous avez appelé, donc vous parlez de sculpter le paysage. Comment on peut parler de sculpter le paysage alors qu'on fait simplement un enregistrement du son tel qu'on le reçoit directement dans l'environnement dans lequel on se trouve? Pourquoi parler de sculpter?
Peut-être on écoute l'extrait d'abord et puis
bien sûr.
On en parle après. Peut-être que ça ne vous parle pas beaucoup, c'est assez...
Quand j'entends ce genre de son, j'ai l'impression que c'est de la pluie, comme s'il y avait une forme de tempête, une averse.
Alors, ce n'est pas de la pluie, c'est du vent.
C'est uniquement du vent.
C'est uniquement du vent. C'est, c'est une phonographie, pour le coup, qui va me servir, moi, de matériau brut pour la recontextualiser dans un dispositif musical, électroacoustique, en dialogue avec un instrumentiste, saxophoniste, qui joue saxophone soprano. Et ce moment est intéressant par rapport à cette question du paysage, parce que voilà, là c'est hyper focalisé, j'ai pas d'outils spéciaux pour focaliser là-dessus, je suis avec un couple stéréo, d'abord j'ai fait une phonographie avec des chants d'oiseaux, voilà, assez bucolique, pastoraliste si on veut, et puis ce qui m'intéressait c'est aussi de faire du matériau pour ce projet en question. Et ce projet en question s'intéresse aux frontières. Donc là, on est sur une frontière, vraiment, de ce que je disais tout à l'heure, sur les types d'écoute. Là, on est dans une écoute réduite du matériau pour lui-même, donc vraiment du vent. Il y avait ce bois de peuplier, puis il y avait ce vent qui était constant. Donc l'idée, c'était d'avoir quelque chose qui se rapprochait le plus possible du bruit blanc qu'on peut générer avec un synthétiseur, mais qui soit d'origine organique, donc un field recording, et puis de pouvoir le réintégrer dans une démarche, comme je disais, musicale, où là, on travaille sur les frontières, comme je disais, donc c'est à la fois les frontières du dispositif électroacoustique de propagation du son, donc on joue en quadriphonie, c'est justement un projet qui s'appelle Win Those Poplars, donc il y a aussi des sons de grandes portes-battants d'usines, comme ça, vides, qui résonnent dans l'acoustique, il y a ces peupliers, et puis il y a des vents aussi, différents vents, notamment dans les architectures, qui passent dans des conduits, donc qui ont aussi des rapports tonaux, rapports musicaux, puisque ça siffle. Et ça, l'instrument, comme c'est aussi un instrument avant, le saxophone, enfin, c'est un bois, mais voilà, c'est un vent. Et l'idée, c'était de confronter à la fois le jeu de l'instrumentiste, le temps réel, le support fixé, qui est donc du field recording, donc sur bande, et puis cet espace des haut-parleurs et l'espace de l'acoustique de l'instrument. Tout ce qu'on fond pour qu'on arrive dans des nouveaux territoires, des nouvelles oralités, où tout le monde est à la fois dans cette ambivalence, dont on ne sait pas ce que je sais pas, ce que moi par exemple l'instrumentiste écoute, puisqu'il a d'abord le primat de sa perception à lui, ça va être le son de son instrument qui résonne dans son corps, donc je sais pas ce qu'il entend du son des haut-parleurs, je sais pas ce que l'auditeur à côté, puisqu'il déambule aussi dans l'espace dans l'audience, donc je sais pas ce que l'auditeur juste à côté de lui entend, je sais pas ce que l'auditeur qui est le plus proche de moi entend, je sais pas, donc on est comme ça dans ce travail d'ambivalence qui pose toutes ces questions justement de frontières, d'inframinces et de multisensorialité des espaces. Quand on parlait tout à l'heure de Soundscape, de Turning of the World, donc le livre dont on parlait tout à l'heure sur qui a préfiguré cette notion de paysage sonore, maintenant il y a un nouveau livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps, en 2015. Je ne peux pas citer tous les auteurs, mais je sais qu'il y a Henri Torgue dedans, etc. Enfin, ça fait suite aussi à toutes les études de l'école du laboratoire du Cresson, qui s'appelle Sound Spaces. Donc c'est vraiment un titre qui réfère directement à Soundscape, The Tuning of the World de Raymond Merschaeffer. Sound Spaces, il a quelque chose de plus actuel dans son titre, parce qu'il pose aussi la relation des différents espaces et du son de ces espaces et des interrelations qu'on peut avoir avec. Notamment toutes les frontières acoustiques, les paliers qu'on va avoir, les nuances d'acoustique. Par exemple, entre là, on est dans un escalier, puis on va passer dans un sas, et puis après, on va être dans un espace ouvert où ça va être extrêmement résonant. On va entendre l'audience qui arrive dans le hall d'accueil et puis qui résonne jusqu'en haut, mais avec cette espèce de diffusion, on n'a pas le son direct, et ainsi de suite. Tous ces différents espaces, il faut les caractériser, et c'est comme des sous-parties d'un paysage. Et ces sous-parties aussi supposent des relations différentes. Voilà, donc c'est aussi plus complexe quelque part que juste avoir cette définition mentale d'une image, même sonore, d'un paysage qui serait fixé devant nous. On est complètement inséré, on a une interrelation. Mais c'était déjà peut-être aussi là dans certaines. Si il y a quelque chose qui me vient à l'esprit, là, c'est un texte qui s'appelle Soundwalking de Hildegard Westerkamp, donc du World Soundscape Project, qui en 1974. Commencer déjà en fait des exercices d'écoute en groupe et pour essayer de faire en sorte que les participants aiguisent comme ça leur écoute et leur perception fine de différentes composantes d'un environnement. Et le premier des enseignements, c'était de marcher en groupe sans évidemment parler, et de prendre conscience du propre bruit de sa marche, du propre bruit de sa respiration, du propre bruit des vêtements, que faisaient les vêtements sur son propre corps. Donc on voit bien là qu'il y a encore une fois ce rapport d'intersubjectivité et d'action dans l'espace. C'est-à-dire que pour prendre conscience vraiment de tous les sons d'un paysage, on doit prendre aussi conscience des propres sons et nous de notre corporité dans ce paysage. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, on a aussi ce rapport de pouvoir sculpter l'espace quelque part. C'est là où vraiment Murray Schaeffer parlait de harmonie du monde, de toning justement, et de quelque part une première conception du design sonore. C'est-à-dire on peut designer les sons. Donc c'est moi ce que je fais dans cet exemple-là, où je vais chercher ce son-là pour quelque chose de très particulier que je veux sortir.
Non, faut rien dire en plus. Ça se tient tout seul. Son bout, c'est très bien.
Donc ça rejoint ce que vous disiez sur la fidélité au paysage sonore, finalement, qui est pas possible de rendre compte. Et du coup, ça soulève une question. Par exemple, au niveau de... Donc vous disiez de la subjectivité, qu'il y a énormément de subjectivité, qu'il est très difficile de s'en affranchir, qu'on cherche même plus à s'en affranchir finalement. Est-ce que on peut pas penser, en allant un peu au-delà de cette simple subjectivité, à une forme de militantisme sur certains sons, sur certaines prises sonores? Je pense par exemple, vu que vous avez fait des travaux sur mes 68, si vous cherchiez à rendre compte d'un visage particulier de cette époque-là, ou...
Ou même, sans parler de militantisme, d'un engagement au-delà de la subjectivité, enfin de vouloir faire parler le paysage, l'événement qu'on capture.
L'engagement, il serait plus dans ma croyance en la création sonore. Parce que je pense que l'avenir du son, le son a beaucoup d'avenir. Je pense que c'est un mode d'expression extraordinaire, la création sonore. Donc effectivement, moi, mon militantisme, il serait plus là pour développer des choses qui sont uniquement sonores. Et je crois qu'aujourd'hui, on revient, il y a beaucoup d'intérêt pour le son seul, sans l'image. C'est une bataille, hein. Alors j'ai choisi le terme militant pour j'ai choisi un bien, mais voilà, je crois qu'il il faut batailler pour ça, parce que il y a un grand avenir, il y a une grande capacité d'expression avec le son binaural, le son multiple canal. Il y a de grandes possibilités d'expression. Rodolphe a parlé du cinéma sonore qui il y a 2-3 représentations par an à Radio France, et c'est compliqué de les fabriquer. C'est des choses très compliquées, mais très très intéressantes, et qui laissent une place à l'imaginaire et à des possibilités d'expression très très intéressantes.
Rodolphe, Alexis, quand je parlais d'engagement, je pensais aussi à l'extrait Peste Acide. Vous interrogez, enfin vous faites parler, vous donnez la voix à des habitants de Signy, dans le Haut-Poitou, et j'ai remarqué que, donc on n'aura pas le temps d'écouter l'extrait, mais dans la description de l'extrait, il y a marqué « ni hippie ni écolo, ces paysans retissent le fil de leur histoire », et je trouve ça intéressant, parce que ça soulignait qu'il y avait un choix des personnes à qui on laissait la voix dans l'enregistrement. Est-ce que ça, c'est une forme d'engagement, de ce choix de à qui on laisse la voix, qui on laisse parler dans l'enregistrement?
Alors il y a deux choses, je vais répondre à ta question. D'abord, je voulais rebondir sur ce que disait Renaud. Je pense que le militantisme, il n'est pas, évidemment, il n'est pas sonnant, trébuchant, il n'est pas visible comme ça, mais il est implicite quelque part dans la démarche du preneur de son, comme j'ai dit tout à l'heure, dans ce rapport de relation avec l'espace. Quand on va essayer... Je vais parler de moi pour le coup, mais je fais beaucoup de prises de son naturalistes. Et je ne suis pas du tout dupe de ce que je fais par rapport à ce que je disais de ce rapport de fidélité, etc., d'objectivité, mais j'ai cette contrainte et ce souci d'avoir les choses les plus claires, les plus nettes, les plus profondes, les plus détaillées possibles. Et surtout, j'ai une vision très rousseauiste de ces paysages sonores libérés de l'empreinte humaine, donc tels qu'ils étaient peut-être dans un Éden qui n'a peut-être même pas existé, puisque... On peut se dire qu'il n'y a pas... Enfin voilà, c'est un autre débat, mais en tout cas, donc je vais à l'autre bout du monde dans une... qui pose aussi des questions d'empreinte carbone, etc., de démarche, mais j'essaye d'avoir un rapport aussi un petit peu à la science, d'aller dans des zones assez éloignées, d'être à la frontière du document et de la pièce musicale. Et je gomme tous les sons anthropiques. Donc s'il y a une résonance de voiture, etc., je ne vais pas choisir cet extrait-là. D'accord. Donc ça, c'est quelque part une forme de militantisme, de donner, à entendre cette chose-là, en fait, gommer les sons humains, par exemple.
Oui, d'accord. Alors je suis désolée, on va devoir finir sur ces mots des paysages rousseauistes.
Ouais, et sinon, non, mais je peux peut-être juste conclure sur ce que tu disais, sur ce petit documentaire. Alors là, le petit descriptif, c'est les punchlines à la Arte Radio, hein, qui mettent dans la description. Mais oui, pour le coup, j'ai donné la parole avec des questions très ouverte à des gens que je connais, puisque c'est un territoire où j'ai grandi, c'est là où était ma grand-mère, donc c'est des gens que j'ai vu, une génération toute entière qui a disparu suite de cancer, etc. Cette génération-là a connu la révolution verte de plein fouet, donc les intrants, le rapport au chimique, etc. Et voilà, ils sont tous partis. Donc j'ai des questions très ouvertes, par exemple, sur un bidon, est-ce qu'il y avait des têtes de mort sur les bidons? Et ça partait comme ça. Et si j'avais eu des questions plus précises, vu que ce sont tous des taiseux, personne ne veut se raconter, personne ne parle d'une espèce de ce pathos qu'il y a, du fait qu'il y a toute une génération comme ça qui est décédée de cancer. C'était la seule manière de gagner des choses, de gagner leur conscience et d'ouvrir un petit peu.
Voilà. D'accord, très bien, bah, merci beaucoup.
Merci.
Merci à vous, Rodolphe Alexis, et à vous, Renaud Dalmar, d'être venu pour nous éclairer sur ces questions de conservation du paysage sonore.
Merci pour votre invitation.
Merci. Et donc, on va tout de suite laisser la place à Solvay et Coagula après cette dernière table ronde de la journée de la radio. Merci.
La journée de la radio, c'est sur Transistor.
La journée de la radio, c'est sur Transistor, mardi 9 avril. Paysage de radio. De 6h du matin à 20h du soir, des tables rondes, des fictions, des jeux, une chasse au trésor.
Pour des raisons de budget, la scène suivante sera entièrement bruitée à la bouche.
C'est le sud.
Je vous fais partager ce moment. J'écoute les oiseaux, vous savez que bientôt on n'écoutera plus d'oiseaux malheureusement.
En direct et en public, Falcantor.
Oh putain, tu fais super bien le chat.